France Culture, les matins du samedi, Quentin Lafay.
Notre invité ce matin est biologiste et paléontologue britannique. Il est aussi l'un des rédacteurs en chef de la célèbre revue scientifique Nature. Et il vient de faire paraître aux éditions Lattès un ouvrage dense, passionnant. Un livre tragique parce qu'il raconte en partie l'extinction de l'espèce humaine. Mais un livre pédagogique, accessible, drôle parfois, qui s'intitule « Une très brève histoire de la vie sur Terre ». Bonjour Henry G.
Good morning.
Et merci beaucoup à Michel Zlotowski qui assure l'interprétation de cette discussion. Et merci à vous, Henry G, d'être avec nous ce matin au micro de France Culture. Ce livre, quand même, il faut le dire, votre livre, il est ambitieux. Vous racontez 4,6 milliards d'années en 12 chapitres. En somme, vous faites l'histoire de la totalité de ce qui existe et de ce qui a existé. Mais également, vous racontez tout ce qui existera et n'existera plus. Pourquoi une telle ambition ?
Je ne sais pas. Ça a commencé de façon extrêmement simple. Moi, je suis éditeur du magazine de science, du journal scientifique Nature depuis 36 ans. Et j'ai eu le privilège d'être témoin de découvertes extraordinaires en paléontologie depuis cette époque. Un de mes collègues m'a suggéré que j'écrive un petit livre pour décrire ces découvertes exceptionnelles. Et j'ai commencé à l'écrire. C'était un peu différent de ce que, finalement, a émergé. J'ai inclus quelques anecdotes drôles sur les lieux que j'ai visités, sur les chercheurs. Mais à la fin, j'ai trouvé plus simple de raconter une histoire, l'histoire de la vie sur Terre. Comme si c'était une histoire pour endormir les petits-enfants, mais cette fois-ci, c'est pour les adultes. Et au lieu d'écrire « Il était une fois », bon, ça commence presque comme ça, et au lieu de le lire aux enfants, eh ben, c'est pour les adultes. Et après, ça s'est écrit tout seul. Et c'est vraiment une expérience exceptionnelle de joie dans l'écriture. Donc, si vous voulez, l'éventail du livre, cette quantité extraordinaire de temps, ça m'a frappé simplement une fois que j'ai eu terminé l'écriture. Et il m'est devenu clair que la ligne de temps de la Terre est immense par rapport au nombre d'années pendant lesquelles les humains ont été et sont sur Terre.
Alors vous dites qu'il y a deux choses qui sont extrêmement surprenantes au sujet de la vie. Commençons par la première. Ce qui est surprenant, vous dites, c'est son existence même, le fait que la vie existe tout simplement. Expliquez-nous pourquoi, vous, ça vous surprend encore.
Bien que la vie existe est remarquable. Nous n'avons aucune preuve d'existence de vie, où que ce soit à travers l'univers, seulement sur cette planète, la Terre. Ça pourrait changer à l'avenir. Mais ce qui m'a surpris le plus, véritablement, que simplement l'existence de la vie, c'est que la vie a débuté extrêmement rapidement après la formation de la Terre, quasiment comme si c'était une conséquence inévitable de la formation de la Terre. Cela m'a suggéré que la vie, peut-être même une vie extrêmement simple, pourrait être très commune à travers l'univers, mais que la vie plus compliquée, disons, est beaucoup plus rare. Et que des vies très élaborées, peut-être pas, mais vous savez, mon fils me dit que la vie intelligente n'existe pas sur Terre, puisque les lézards sont revenus pour prendre possession des terriens. Mais je pense qu'il rigole, là.
Il rigole, en effet, certainement. Et peut-être commençons par les principaux défis que vous mettez en lumière dans ce livre, les principaux défis auxquels la vie même a dû faire face sur Terre. L'un des premiers défis, racontez-vous, survient pendant la grande oxydation. Racontez-nous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette grande oxydation ?
La grande oxydation, cet événement s'est produit il y a 2,5 milliards d'années. Pour des raisons que personne ne comprend véritablement, il y a eu vraiment une grande poussée d'atmosphère dans l'oxygène. Et cet oxygène s'est oxydé soudainement pour qu'il y ait beaucoup moins d'oxygène, comme c'est le cas aujourd'hui. Personne ne sait véritablement pourquoi cet événement s'est produit de grande oxydation. Mais une chose qui en est la conséquence, c'est que la Terre est passée à travers une longue période de glaciation. La Terre était entièrement couverte, ou quasiment entièrement couverte de glace, pendant 300 millions d'années. Et cela a contraint les organismes vivants sur Terre, qui étaient des organismes extrêmement simples, des bactéries, par exemple, de se réunir et de former des créatures plus complexes et plus résistantes, celles que nous voyons aujourd'hui dans les moisissures, par exemple. Et ce qui semble se produire, ça m'a apparu que lorsque la Terre, à chaque fois, passe par des événements dramatiques, des convulsions, la vie réagit en devenant plus forte et plus résiliente. La Terre a tenté à plusieurs reprises de tuer tous les êtres vivants, mais la vie revient toujours. La vie, si elle avait une devise, serait « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ».
Alors pour illustrer ce juste proverbe, prenons peut-être un deuxième exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre ouvrage, Henry G. Le grand défi de la vie survient aussi lorsque, il y a 825 millions d'années, le supercontinent que l'on appelle Rodinia se fragmente. Racontez-nous là encore ce qui s'est passé.
La Terre respire. Elle passe par des respirations qui durent des milliards d'années. Les continents se brisent et se réunissent à nouveau pour recréer un supercontinent. Et ils se fragmentent à nouveau. Rodinia était probablement, peut-être, le second ou le troisième supercontinent de l'histoire de la Terre. Nous en savons très très peu de ce qui s'est produit précédemment, avant Rodinia. Mais lorsque Rodinia s'est fragmenté, tous les fragments ont été distribués autour de l'équateur. Il faisait très très chaud et très humide. Et comme vous le savez du climat tropical, l'impact du temps est extrêmement important sur les paysages. Donc il y avait beaucoup de pourrissement, beaucoup de rochers qui ont été brisés, qui sont tombés dans la mer. Et ça a fait sortir beaucoup de carbone. Et donc l'oxygène s'est accru dans l'atmosphère. Mais sans carbone, la Terre n'a pas d'effet de serre, comme on le sait aujourd'hui. Et quand le carbone se détruit, il y a eu un second âge de glace. Et après la fragmentation du Rodinia, il y a eu un nouvel âge de glace, peut-être même plus qu'un âge de glace, qui a duré 18 millions d'années et qui a couvert la plus grande partie de la Terre de glace. Mais ça, c'était, si vous voulez, l'élan pour le prochain saut, le suivant changement, le changement suivant de l'évolution, qui était l'apparition des animaux. Les animaux ont été plus actifs et ont commencé à se déplacer et à chercher de la nourriture, principalement se manger les uns les autres. Donc c'était une autre de ces grandes catastrophes qui a créé la vie animale sur Terre. De tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui, par exemple.
Vous dites, vous écrivez que l'histoire de la vie sur Terre, avec ses drames et ses péripéties, n'est régie que par deux choses. L'une est le lent déclin de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. L'autre, c'est l'augmentation régulière du rayonnement du Soleil. Pourquoi nous dites-vous que ces deux variables sont les plus essentielles à la vie sur Terre ?
Quand on considère la vie sur Terre à l'échelle panoramique la plus large, ces deux facteurs sont ceux qui émergent. Le déclin de dioxyde de carbone et l'accroissement du rayonnement solaire. Bon, ça peut être surprenant que je parle du déclin du dioxyde de carbone. Mais vous savez, le taux de carbone augmente et baisse au cours de l'histoire. Pour l'instant, nous avons un accroissement massif de dioxyde de carbone en raison de l'activité humaine. Le dioxyde de carbone, il y en a plus dans l'atmosphère qu'il y en a eu depuis, je pense, 1 milliard d'années. Mais en tout et pour tout, si vous regardez sur les milliards d'années, la quantité de dioxyde de carbone dans l'air descend, baisse, parce que au cours des âges, il y a plus de terre créée sans cesse. Et les nouveaux rochers, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent plus de réactions avec le dioxyde de carbone pour le diminuer. Et cela rendra finalement la croissance des plantes difficile, parce que les plantes utilisent comme carburant le dioxyde de carbone pour croître. Et donc, la Terre, parmi toutes les étoiles ou toutes les planètes, est très très ordinaire. Vous savez, toutes les étoiles grandissent, naissent, grandissent, et puis il est clair qu'en raison du la grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la Terre ne se réchauffera pas comme elle aurait dû le faire. Mais les rayonnements solaires deviennent de plus en plus forts. Et ça a une conséquence, en fait, deux conséquences. La première, c'est que les âges de glace que la Terre a connus, les âges de glace qui couvraient la planète pendant des millénaires, sont moins graves qu'ils ne l'étaient précédemment, en raison de la chaleur solaire. Et finalement, le soleil va être trop chaud pour que la vie existe sur Terre. Et finalement, la vie va s'éteindre dans à peu près 1 milliard d'années.
Alors on va y venir, la vie va s'éteindre. Mais avant cela, regardons le passé qui s'étend sur 4,6 milliards d'années. Comme scientifique, quelles leçons tirez-vous ? Comment est-ce qu'un groupe s'éteint ? Comment est-ce qu'une espèce arrive à s'éteindre ?
Toutes les espèces ont une durée de vie. Elles évoluent, elles croissent, et puis elles s'éteignent, finalement. En raison des risques de l'évolution, il y a plus de créatures qui viennent en compétition. Des événements dus au hasard causent leur déclin. Et dans l'arrière-plan de la vie, il y a toujours de nouvelles espèces qui viennent à exister. Et les espèces existantes deviennent toujours des espèces éteintes. C'est le processus naturel. Mais ce que les paléontologues reconnaissent, c'est qu'il y a certaines périodes où beaucoup d'espèces s'éteignent, où beaucoup d'espèces naissent dans le même temps. Et donc, inévitablement, ce nombre d'espèces va mourir. Parfois, ce sont des catastrophes qui se produisent. On peut parler, par exemple, de l'extinction des dinosaures et de beaucoup d'autres créatures, il y a 65 millions d'années, causées par l'impact d'un grand astéroïde sur Terre. Mais il y a eu des événements plus importants. À la fin de l'époque permienne, du primaire donc, c'était un événement qui a pris 1 million d'années pour se produire, causé par des volcans monstrueux qui ont fait monter la température de la Terre de 6 degrés et qui ont empoisonné l'atmosphère et les océans. Ça, c'était quelque chose qui a éteint quasiment toute vie. C'était la plus grande extinction de masse que l'on connaisse. Il y en aurait pu y en avoir, il y a peut-être eu y en avoir par un passé plus ancien, mais on en sait moins.
La question, évidemment, Henry G., qu'on a envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que l'être humain, est-ce que nous avons, nous-mêmes, l'espèce humaine, une durée de vie limitée ?
C'est très intéressant que vous posiez cette question, parce que quand je me suis mis à parler de l'avenir de la planète, j'ai dû faire face à la possibilité de l'extinction des humains. Et je ne pouvais pas véritablement répondre à la question à cette époque-là. Donc, dans le livre, j'étais resté très vague. J'ai dit, bon, quelques millénaires, des dizaines de milliers d'années. Et finalement, j'ai dit, tôt ou tard, parce que les êtres humains, c'est une espèce parmi beaucoup d'autres. Et ce sont des mammifères. Et les mammifères ont une durée de vie d'environ 1 million d'années. Ce qui ne signifie pas que nous y arriverons à 1 million d'années et puis soudain on va tous mourir. Non, c'est une échelle à laquelle on réfléchit. Toutefois, les êtres humains sont très exceptionnels. C'est une espèce extrêmement exceptionnelle. Nous pourrions nous éteindre la semaine prochaine en raison de notre propre incompétence, où nous pourrions, parfois grâce à notre ingéniosité, durer des millions d'années. C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse dans le livre. Donc j'ai écrit un essai dans Scientific American en disant que les êtres humains vont probablement s'éteindre plus tôt que plus tard. Cet article a causé de la consternation dans beaucoup de langues. Et donc, j'ai décidé d'écrire un autre livre sur l'extinction des êtres humains. Et ça sera publié l'année prochaine. Mais ma vision, c'est que les êtres humains vont probablement s'éteindre plus tôt, dans 10 000 ans, pour une variété de causes diverses.
Alors justement, entrons dans ces causes diverses. Quelles sont, selon vous, les causes qui entraîneraient, qui vont entraîner, très certainement, on le dit avec fatalisme et tristesse, l'extinction de l'espèce humaine?
Mais différentes raisons. L'une qui m'a frappé comme étant extrêmement importante, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, la population de la Terre, la population d'êtres humains, commence à décroître. La population va décroître d'ici la fin de ce siècle, parce que tout le monde, dans tous les territoires de la Terre, eh bien, tout le monde a moins d'enfants qui puissent compenser le nombre de décès. La population croît toujours pour l'instant, mais le taux de croissance de la population ralentit. Dans les années 1960, le taux d'accroissement de la population humaine était de 2%. Et beaucoup de biologistes étaient très inquiets du fait que la population s'accroîtrait tellement qu'il y aurait des famines monstrueuses et des manques de ressources, etc. Ça ne s'est pas produit en raison de la technologie et des innovations technologiques humaines, la création de nouvelles lignées de blé, par exemple. Eh bien, la croissance de la population aujourd'hui, le taux de croissance est de 1%. Ça a décru très rapidement. Dans le troisième quart de ce siècle, on va arriver à une croissance zéro. Et ensuite, la population va décroître rapidement. Donc, à la fin du 21e siècle, il se peut qu'il y ait autant, voire moins de population sur Terre qu'aujourd'hui. Et les projections estiment que en 2300, il n'y aura plus que 1 milliard d'habitants sur Terre. C'était la population de la Terre qui était présente durant le règne de Napoléon. Donc c'était la dernière fois qu'on a vu ce chiffre d'un milliard. Et après, la seule voie, c'est la voie vers le bas, vers la décroissance. Deux raisons, c'est plusieurs raisons. Nous n'avons plus suffisamment de ressources pour que nos vies soient confortables et que la Terre soit habitable. Donc, si on descend à 1 milliard, on ne pourra plus repartir vers le haut. Et la deuxième raison, c'est que les êtres humains sont génétiquement très homogènes. Les gens à travers le monde ne se ressemblent pas beaucoup, mais il y a moins de variations génétiques dans l'ensemble de la population humaine, à travers les 8 milliards d'habitants actuels, que dans un seul groupe au sein de l'Afrique centrale. Et c'est la conséquence du fait que les êtres humains, l'espèce humaine s'est quasiment éteinte à plusieurs reprises avant l'ère agricole. Et donc, ça a beaucoup restreint les variations génétiques sur lesquelles la génétique peut jouer, ou l'évolution peut jouer pour survivre. C'est très inquiétant, et les gens n'y ont pas beaucoup pensé. Et ça tient à la qualité du sperme, si je peux en parler, sur un programme familial. La qualité du sperme a décru rapidement au cours des 50 dernières années. Et les scientifiques médicaux, en l'étudiant, voient là-dedans une menace existentielle à l'existence humaine. Personne ne sait véritablement pourquoi le sperme humain décroît, la qualité décroît si rapidement. J'ai ma propre vision là-dessus. C'est en raison probablement du stress et de la surpopulation. Mais ça, c'est mon point de vue là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai.
Enrigi, merci beaucoup. On poursuivra cette discussion ensemble à partir de 8h20.
France Culture, les matins du samedi, Quentin Lafay.
Notre invité ce matin s'appelle Henry G. Il est biologiste et paléontologue britannique. Il est aussi l'un des rédacteurs en chef de la célèbre revue scientifique Nature. Et il vient de faire paraître aux éditions Lattès un ouvrage dense, passionnant, un livre tragique parce qu'il raconte en partie l'extinction de l'espèce humaine, mais un livre pédagogique, accessible, drôle parfois, qui s'intitule Une très brève histoire de la vie sur Terre. Et dans ce livre, Henry G., une phrase en particulier a retenu mon attention. Vous écrivez: toutes les espèces heureuses et prospères se ressemblent. En revanche, chaque espèce confrontée à son extinction le fait à sa manière. Pourquoi affirmez-vous cela ?
Ah, je suis très fier de cette phrase. Hein. Ça vient d'un des romans de Tolstoï, Anna Karénine. Donc j'appelle ça le principe Karénine. Donc quand les espèces sont en déclin, donc il y a très très peu d'individus qui survivent, les causes d'extinction peuvent être absolument n'importe quoi, des causes au hasard que l'on ne peut pas prédire. Donc ça pourrait être que vous avez une fleur très rare qui ne croît que dans un seul endroit et qui s'éteint en raison d'un tremblement de terre ou parce que quelqu'un détruit ce terrain pour construire un immeuble, par exemple. Donc lorsque quelqu'un étudie des espèces qui sont sur le point de s'éteindre, la probabilité de l'extinction s'accroît. Mais la cause peut être vraiment très au hasard. Les espèces s'éteignent pour toutes sortes de raisons. Mais quand une espèce, enfin il y en a beaucoup, hein, tente de se survivre et de surmonter ces événements hasardeux.
Vous dites que l'homme, on va revenir à ce sujet triste, tragique, terrible, l'extinction de l'espèce humaine. Vous dites que l'homme, Henry G., a développé une dette d'extinction. Qu'est-ce que cela signifie ?
La dette d'extinction a commencé comme un concept mathématique simple sur le papier dans un article qu'on a publié, disons, il y a une vingtaine d'années. Mais ce que ça signifie, en fait, c'est que les espèces qui semblent être très dominantes sur l'habitat, sur par exemple un endroit de la forêt ou un endroit de la terre quelconque, fondamentalement, elles vont au-delà de leur capacité de survie. Donc quand une partie de cet habitat devient inhabitable, cela commence inévitablement à faire démarrer une horloge d'extinction. Donc, cette espèce semble aller très bien, mais elle vit sur un temps qui lui est simplement prêté, non pas donné. Et il me semble que l'espèce humaine est en train d'utiliser, de surutiliser son habitat, et nous avons surexploité les ressources que nous avons sur cette planète. Donc, l'extinction des êtres humains est simplement une question de temps.
Je reviens justement sur ce que vous venez de dire là. Il y a tout au long de votre livre cette idée au fond fataliste que l'espèce humaine de toute façon finira par s'éteindre. Je vous cite à nouveau, vous écrivez « Et même si les humains font tout leur possible pour réparer les dommages infligés à la planète par leurs activités, ils ne survivront pas plus que quelques milliers, voire dizaines de milliers d'années supplémentaires. » Fin de citation. On ne peut vraiment rien faire face à notre propre extinction ?
Si, c'est pas quelque chose que dont je débat dans ce livre, parce que je parle de la Terre et non pas de l'espace. Je sens que la seule façon dont les êtres humains peuvent éviter l'extinction, c'est d'être très très sérieux sur la colonisation de planètes ou de concevoir d'énormes stations de l'espace et d'émigrer dans l'espace. Quand j'étais petit garçon dans les années 1960, tout le monde était très enthousiasmé par les voyages intergalactiques. Et je me souviens en 1969, quand il y a eu le premier alunissage. Mais ensuite, après 1972, personne n'est allé en dehors des couches basses de l'atmosphère. Les seules personnes qui y sont allées sont les Américains et tous quasiment des hommes. Donc, c'était une exploration de l'espace, c'était arrêté. Mais là, il y a un intérêt renouvelé pour l'exploration de l'espace par les êtres humains. Mais pour éviter l'extinction, mon sentiment est qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour pouvoir coloniser l'espace dans les 200 années à venir, parce que après cela, il y aura trop peu d'êtres humains pour qu'il y ait les cerveaux, la technologie, l'infrastructure nécessaire pour faire cet énorme effort nécessaire. Donc, nous vivons véritablement un moment extrêmement spécial de notre histoire. C'est un moment de notre histoire où on peut faire deux choses. Un, si on peut ne rien faire, et alors là, c'est sûr que l'extinction surviendra dans 10 000 ans, et la seconde chose, c'est qu'on peut être sérieux sur l'exploration de l'espace, et ça pourrait prolonger notre existence pendant des millions d'années. Mais une fois qu'on le fait, on pourra évoluer vers quelque chose d'autre qui ne sera pas humain. Mais ça, c'est une autre histoire.
Vous qui travaillez, Henry Gish, depuis des années sur cette question de l'extinction de l'espèce humaine, comment est-ce que vous expliquez, dans le fond, que cette question-là nous hante tant, nous angoisse tant, alors qu'au fond, dans des milliers, des millions d'années, nous serons tous morts, et pourtant cette idée-là nous angoisse terriblement?
Les gens me posent cette question. Ils me disent, j'ai écrit ce bouquin sur beaucoup d'extinction, et vous, Henry G., comment vous pouvez dormir la nuit? Je peux vous dire que moi, je dors très bien la nuit. J'ai plus de sujets d'inquiétude concrets, genre, que vais-je faire à dîner ce soir? Comment est-ce que je vais payer ma facture d'électricité? Et en ce qui concerne le futur, l'avenir lointain, j'ai une vision très philosophique sur l'extinction de l'espèce humaine. L'extinction pour une espèce, c'est comme l'extinction pour un individu. Ça va nous arriver, de toute façon, un jour ou l'autre. Et vraiment, personne ne peut s'en inquiéter, sérieusement. Nous sommes tous des êtres humains qui vivons sur cette petite planète. Et je pense que c'est une bonne chose que, si pour certaines raisons, il faudrait laisser la planète en aussi bon état en partant que l'on a trouvé en entrant.
Alors pour poursuivre dans les réjouissances, on a parlé de la fin de l'espèce humaine. Parlons maintenant de la fin de la Terre. Et vous dites que la première grande étape de ce nouvel âge de la fin de la vie de la Terre, c'est la prochaine glaciation qui, lorsqu'elle arrivera, sera soudaine, et elle débutera par la fin du Gulf Stream. Expliquez-nous là aussi ce que vous envisagez pour l'avenir.
Ça, c'est vraiment une inquiétude pour les scientifiques. Dans l'Europe du Nord, nous sommes très heureux. Notre climat est beaucoup plus tempéré qu'il ne devrait l'être. Il est beaucoup plus chaud qu'il devrait l'être. On devrait avoir le même climat que dans le nord du Canada. La raison pour laquelle ce climat ici est beaucoup plus chaud, c'est que même dans notre Angleterre pluvieuse, c'est parce qu'il y a de l'eau chaude qui vient des tropiques, qui viennent baigner les côtes de l'Europe du Nord. Mais un des problèmes avec le réchauffement climatique, c'est que ça fait fondre la glace de l'Arctique. Et ça projette énormément d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Et ça va supprimer le Gulf Stream. Et une des conséquences du réchauffement climatique pourrait, de façon bizarre, être un autre âge glaciaire. Ça ne produira pas tout de suite parce qu'il y a trop de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais il se peut que la fonte des glaces soit si dure, si sévère, que ça pourra déclencher quelque chose, des glaciations, et ça pourra se produire dans le cours d'une vie humaine. Ça s'est produit déjà précédemment. Ça s'est produit à la fin de la dernière période glaciaire. Et il faut dire que il y a plusieurs événements qui se sont produits aussi depuis la fin de la glaciation, il y a 30 millions d'années, lorsque l'Antarctique est passé vers le pôle sud et ça a mené à beaucoup de refroidissement qui se poursuit aujourd'hui. Et ces petites séries d'âge glaciaire se sont produits pendant des milliers, des millions d'années, jusqu'à ce que l'Antarctique a commencé à bouger vers le nord, le pôle nord. Nous sommes au milieu de glaciations et il y aura des petites glaciations et des petits réchauffements. Et toute la civilisation humaine s'est produite pendant un tout petit intervalle de chaleur au milieu de ces aires massives de glaciation. Donc il y aura encore beaucoup de disruptions climatiques causées par nous et d'autres par la façon dont la Terre se comporte.
Je voudrais citer, pour poursuivre ce fil de la fin de la Terre et la fin de la vie sur Terre, la dernière phrase de votre ouvrage, Henry G. Vous écrivez « Dans un milliard d'années environ, la vie sur Terre, qui sut si habilement tirer parti de chaque défi lancé contre son existence pour proliférer, aura finalement cessé d'exister. » C'est cela la fin, c'est la fin de la vie tout court?
Oui, oui, ça le sera. La vie ne pourra plus s'adapter à la Terre lorsqu'elle deviendra trop chaude et n'aura plus de dioxyde de carbone. Donc, une chose qui va se produire aussi dans un milliard d'années, c'est le processus de dérive continentale avec les plaques tectoniques. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des énormes volcans et des tremblements de terre. Bah, tout ça aussi, ça va s'arrêter. Et la vie sur Terre dépend du mouvement des plaques tectoniques pour fournir les minéraux et le dioxyde de carbone. Donc le cycle de vie sur Terre est lié au cycle des plaques tectoniques. Et les tectoniques sont mues par le cœur atomique de la Terre. Et ces éléments radioactifs vont disparaître. Et donc, ce chauffage interne va s'arrêter complètement. Il n'y aura plus rien pour fournir du matériau aux organismes vivants.
Mais alors, qu'est-ce qu'il adviendra de la Terre elle-même, du globe? Est-ce qu'il continuera d'exister? Est-ce qu'il continuera même de tourner?
Après l'extinction de la vie sur Terre, personne ne sait ce qui va se passer. Il y aura deux visions concurrentes. Tout dépend de la quantité d'eau qui va rester. Il y aura beaucoup de terre. Si s'il n'y a pas suffisamment d'eau, la terre va simplement se dessécher complètement. Et les océans vont bouillir et s'évaporer. Et ça sera aussi sec que la Lune. Toutefois, s'il y a beaucoup d'eau, la Terre va se réchauffer parce que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Donc la Terre va tellement s'échauffer que la Terre va fondre, les rochers vont fondre. Et c'est comme Vénus aujourd'hui. Donc ce sont les deux alternatives aussi horribles l'une que l'autre, dans plus d'un milliard d'années. Dans 5 milliards d'années, le Soleil va devenir une géante rouge et va avaler toutes les planètes, y compris la Terre. Donc ça, c'est une fin finale, si je puis dire, pour la survie de la Terre. Toutefois, l'évolution stellaire est comme ça l'était au début. Le Soleil et la Terre sont les résultats de l'explosion d'une planète géante il y a des milliards et des milliards d'années. Donc nous serons, si vous voulez, la matière première pour la création de nouvelles étoiles.
Bien, alors maintenant que nous comprenons à peu près cette apocalypse scientifiquement démontrée, revenons peut-être, Enrigi, sur des sujets un peu plus terre-à-terre. Je voulais discuter avec vous, comme vous êtes l'un des rédacteurs en chef de la revue Nature, je voulais qu'on discute peut-être de la confiance justement dans ces revues scientifiques, confiance qui a été largement mise à l'épreuve en 2020 lors de la crise sanitaire, à travers une affaire en particulier, lorsque la célèbre revue The Lancet a émis des doutes sur la véracité des données utilisées pour une étude qu'elle avait elle-même publiée dans ses pages et qui concernait l'hydroxychloroquine. Est-ce que cela a pour vous jeté le doute sur le fonctionnement de ces revues scientifiques qui, je le rappelle, fonctionnent notamment sur la relecture entre pairs ?
J'ai deux choses à dire à ce sujet. Le premier, c'est que les journaux scientifiques peuvent être plus avoir plus de crédit en étant plus transparents sur la façon dont ils fonctionnent. Il y a une autre chose que les journaux scientifiques peuvent faire, et Nature peut faire aussi, c'est l'accès ouvert, que les résultats des enquêtes et des recherches scientifiques soient absolument ouvertes à toute personne qui veut les regarder, sans qu'il y ait un paiement. Et nous essayons de rendre le processus de revue collégiale plus simple et plus évident. Et donc il faudra absolument, avec l'accord des gens qui relisent les articles, que leur nom soit publié. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent voir comment est-ce que cet article a été édité, comment il a été changé en accord avec la lecture des pairs. Et tout ça doit être au pouvoir être fait. Si les gens veulent regarder et lire les articles scientifiques, il faut avoir une certaine connaissance scientifique. Et on se bagarre toujours contre les forces de l'ignorance qui sont mises en avant par les réseaux sociaux et par les théories conspirationnistes qui sont très populaires. Ça, c'est un gros problème. Et nous essayons de faire de notre mieux pour les combattre. Et aussi pour nous aussi, en utilisant les réseaux sociaux et en rendant la science plus accessible et plus logique, plus rationnelle.
Est-ce que tout de même, pour vous, au sein du comité éditorial, du comité de rédaction de la revue scientifique Nature, est-ce que ces dernières années ont été des moments d'introspection ? Est-ce que vous tentez vous-même de transformer les règles en interne ?
On essaie de faire deux choses. Parce que nous sommes une publication commerciale, on doit réagir à ce que veulent les gens. D'une façon, on est réactif. On réagit à ce que les scientifiques désirent et ce que le public souhaite. Mais aussi parce que nous sommes une publication, on veut mettre un ordre du jour. Vous savez, nous, comme éditeurs, comme n'importe quelle publication, on est là pour rechercher une nouvelle tendance, pour nourrir une nouvelle recherche enthousiasmante, pour encourager les chercheurs à publier leur meilleur travail. Une chose que les gens ne voient pas dans nos publications, c'est tout le travail que l'on fait pour transformer les articles scientifiques en quelque chose qui soit publiable et reproductible. Et la plus grande partie de ce travail, le public ne le verra jamais. Et bien sûr, on a vérifié plus d'articles que nous n'en publierons jamais par tout type de filtre. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Est-ce que ça tient la route ? Mais en tant qu'éditeur, je suis lié par un vœu d'honneur de garder tout ça secret. Moi, je connais plus de secrets, disons, que n'importe quel espion commun. Et si les gens avaient une meilleure idée de ce que font les éditeurs de journaux scientifiques, ils auraient plus de sympathie, d'empathie, et plus, ils nous croiraient plus. Nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes tous faillibles, bien sûr.
Vous avez mentionné tout à l'heure les théories conspirationnistes. On imagine qu'elles pullulent particulièrement dans le domaine de la biologie. Par ailleurs, de plus en plus de sondages montrent également que les jeunes en particulier croient de moins en moins au rationalisme scientifique. Qu'est-ce que vous, en tant que scientifique, vous pouvez faire pour combattre cela ?
C'est très dur. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux pour présenter la science de façon rationnelle. Il y a des études qui croissent sur la raison pour laquelle les gens croient dans des théories conspirationnistes. C'est parce que les gens se sentent dans l'insécurité. Et ils préfèrent croire leurs propres biais et des choses qui les aideront à renforcer leurs propres biais de pensée. Mais ça, ces théories conspirationnistes vont croître en raison des ressources et de l'économie. Mais tout ce qu'on peut faire, nous, c'est essayer d'y faire face de façon insistante, répétitive, mais avec une voix tranquille. Vous savez, se mettre à hurler, ça va convaincre personne.
Merci beaucoup, Henry G.
You're very welcome and I hope it doesn't spoil your day.
J'espère que ça ne va pas vous gâcher la journée.
Non, au contraire. Et merci une nouvelle fois à Michel Zotowski qui a assuré l'interprétation de cette interview.